Ce matin, je voudrais. J'ai vraiment à cœur un thème que j'intitule Sois gardé dans la paix de Dieu. C'est le titre. Nous sommes dans une époque difficile. Vous êtes d'accord avec moi? Une époque d'incertitude, une époque de peur de lendemain, une époque avec beaucoup plus de questions que des réponses, avec des solutions bancales qui ne tiennent pas la route longtemps. Même nos gouvernements, nous en faisons et ça ne tient pas la route, ça tombe. Les accords internationaux, au niveau international, vous voyez des accords qui se font, ça ne tient pas la route. Des cessez-le-feu qui ne tiennent pas la route. Nous sommes dans une période difficile. Parce que nous sommes dans une période de crise économique. La crise fait peur. La crise est une période de disette où on doit de plus en plus surveiller ce qu'on consomme, ce qu'on dépense, où on doit faire attention de plus en plus à comment on vit. La crise, à entendre la radio, c'est tout ce chapelet de sociétés qui tombent en faillite. Des gens qui sont surendettés, et des problèmes et des problèmes et des problèmes. C'est la misère sociale. Mais une crise encore plus grave que la crise économique et financière, c'est la crise spirituelle et morale. Nos jeunes gens, nos jeunes filles aujourd'hui vivent dans des conditions d'existence incroyables. Certains parents, certains adultes vivent des choses incroyables. Je suis enseignant, j'ai pu vous raconter des histoires que parfois les enfants me racontent. Tu te dis, mais un gamin qui vit ça à l'âge de 15 ans, mais qu'est-ce qui va se passer pour lui? Hier, ma fille Anne-Déborah était au baptême d'une jeune fille de l'église de Châtelet, chez Aaron Mundaya. Hein. Et on m'a dit là que le témoignage d'un monsieur qui s'est fait baptiser avec son fils en même temps, il s'est converti il n'y a pas longtemps, eh bien, ce monsieur, à l'âge de 15 ans, avait déjà été abusé. C'est un homme qui a fait du mal aux autres, tout le temps, à cause du mal qu'on lui a fait. Notre monde, c'est ça. La crise spirituelle et morale est profonde. Les gens ne veulent pas croire en Dieu. Ils se moquent de Dieu, mais en même temps, qu'est-ce qu'ils sont seuls? Qu'est-ce qu'ils ont de questions dans leur tête? Qu'est-ce qu'ils sont perdus? Dans les écoles, quand il faut réconcilier deux jeunes, c'est une montagne. Hein, Rebecca? C'est un problème de réconcilier deux jeunes. Hein. C'est des jeunes non chrétiens. Ils n'ont aucune base. Tu vas leur dire, maintenant tu arrêtes ceci. Non, la guerre n'est jamais terminée. Ils sont tout le temps en guerre. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tu peux mettre tous les mécanismes que tu veux pour les réconcilier. Ils vont toujours trouver un petit chemin pour encore se chercher des histoires, se battre, se faire du mal. Et puis, nous autres, nous-mêmes, parfois aussi cette période est difficile. Nous avons dans l'Église aussi des gens qui souffrent des problèmes de santé, des inquiétudes, des interrogations par rapport à la santé, des menaces dans le corps, des maladies, des conflits familiaux, des situations familiales parfois très compliquées, très difficiles, des préoccupations diverses liées à la vie, financièrement, moralement, d'un point de vue de relation, etc. Ce matin, j'avais vraiment à cœur que nous puissions peut-être, à la lumière de ce texte, qui est vraiment un texte que j'aime particulièrement, que j'aime bien, à la lumière de ce texte, trouver un peu les ingrédients. Comment des ingrédients pour vivre notre vie en ayant tout ce contexte de souffrance. Comment vivre toute cette société, cette vie, cette pression, cet environnement de peine, de souffrance, de doute, d'incertitude, etc. Comment vivre tout ça? En même temps, tenir la barre pour Dieu. Continuer, poursuivre sa route de chrétien. Même plus, faire comme Christ. Il a non seulement souffert, mais il est allé au bout, malgré la souffrance, il a accompli l'œuvre que Dieu lui avait demandée. Comment pouvoir poursuivre sa route, travailler comme chrétien, avancer avec l'œuvre de Dieu, tout en endurant la souffrance, tout en connaissant toutes ses peines. Ce matin, je propose une voie. C'est une voie qui est celui d'entretenir la paix de Dieu dans nos cœurs. Parce que si la crise autour de moi se déroule et peut m'affecter, c'est surtout mon cœur, c'est surtout mon âme qui doit être en paix. Si mon âme est en paix, si mon cœur est en paix, quelles que soient les crises, quels que soient les problèmes, quelle que soit la pression extérieure, je tiendrai la barre et j'irai de l'avant. Je servirai Dieu. Nous allons lire le texte de Philippiens, chapitre 4, du verset 4 au verset 7. Non, du verset 4, oui. Du verset 4 au verset 7. Philippiens 4, 7. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Si j'avais du temps, j'allais vous expliquer que la structure de ce péricope, de cette partie du texte, est très très intéressante. Très intéressante, parce que chaque fois c'est... Tu sais aller jusqu'au verset 9, non? Juste me mettre le verset... C'est juste pour montrer la structure du texte. Hein. Tu ajoutes juste les deux versets, je vais montrer juste un petit truc sur la structure. Voilà, c'est intéressant. Moi, je vous invite à de temps en temps regarder ces petites choses-là, parce que ça aide à réfléchir et à se dire, ah oui, tiens, il y a des choses qu'on peut ajouter aussi à ça. Vous voyez ce qui est... Donc, au reste, verset 8, tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Verset 9, ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et que vous avez vu en moi, pratiquez-le. Et regardez la fin, et le Dieu de paix sera avec vous. Vous avez vu, verset 7, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, sera avec, gardera vos cœurs et vos âmes. Et là, et la paix, et le Dieu de paix sera avec vous. Chaque fois. Donc il y a une structure, une double structure dans ce texte, qui met l'accent sur la paix. Alors que le contexte général du livre parle de la joie. C'est pour ça que ça m'intéresse. Et la paix de Dieu, verset 7, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Nous avons à développer la paix avec Dieu. Si nous voulons être des chrétiens épanouis, des chrétiens qui sont capables de faire face à la pression extérieure du travail, à la pression extérieure de la vie, si nous voulons être ces chrétiens capables de faire face à l'environnement qui est parfois néfaste sur nous, c'est notre cœur, c'est notre âme qu'on doit préserver avant tout. C'est vrai, non? Si je suis affecté par la peur, si je suis affecté par le doute, si je suis affecté par des questionnements, si mon cœur est troublé, alors tout s'écroule autour de moi. Mais si mon cœur reste tranquille, malgré les combats, malgré tout, alors je peux avancer, je peux continuer à servir Dieu malgré les situations difficiles. La paix. J'aimerais peut-être que nous regardions un peu ce petit mot-là, la paix. C'est un mot qui est repris à peu près 285 fois dans la Bible depuis le livre de la Genèse. En tout cas, ma concordance me dit ça, mais c'est une concordance moyenne. Donc je suppose qu'une plus grande concordance trouvera encore plus de mentions de ce mot. La paix dans la Bible souligne d'abord un trait de caractère de Dieu. C'est le trait de caractère de notre Dieu. Notre Dieu est un Dieu de paix. Romains chapitre 15, verset 13, 16, verset 20, il y a des tas de versets qui parlent de cela. Dieu est notre Dieu est un Dieu de paix. Dans ce sens aussi, notre Dieu, il communique sa paix à travers le fruit de l'Esprit. Vous savez que la paix est aussi un fruit de l'Esprit. Donc, il est véritablement dans le caractère de Dieu qui peut nous être transmis par le Saint-Esprit. La paix, ce mot souligne aussi l'état dans lequel on peut se trouver. Être en paix, c'est vivre là où il n'y a pas de guerre. Là où les relations entre les gens sont caractérisées par l'entente et la solidarité. Dans la Bible, la paix est le problème majeur des puissances célestes. Mais c'est aussi un problème majeur pour les humains. Pourquoi ? À cause de la rébellion, à cause du péché. La rébellion et le péché a entraîné que nous avons perdu la paix. Et l'homme recherche la paix. Il recherche la paix par tous les moyens. On recherche la paix dans tout ce que nous vivons. N'est-ce pas que la plus grande structure politique internationale au monde, c'est l'ONU. Et l'ONU, sa mission principale, c'est la recherche de la paix. Il recherche la paix. Parce que la paix, c'est vraiment la condition idéale pour vivre heureux, pour pouvoir faire tout ce qu'on a à faire. Mais les hommes recherchent la paix, mais ne la trouvent jamais. Et ne la trouveront jamais. Ésaïe dit, les hommes diront paix, 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 mais il n'y a point de paix. Pourquoi ? Parce que la vraie paix ne se trouve qu'en Dieu. La vraie paix, c'est celle que le croyant ne peut trouver que dans son Seigneur. Parce que la paix, ça marque la fin de la guerre. Et la vraie guerre de l'humanité, la vraie guerre des puissances célestes, c'est la rébellion vis-à-vis de Dieu. Dans la Bible dit qu'il n'y a pas de paix pour les méchants. Jamais. Je fais lire mes enfants le livre des Proverbes. Ils le savent. C'est un livre vraiment que j'ai voulu être pour eux le livre de chevet. Ils le lisent pratiquement, ils doivent le lire pratiquement tous les jours. Et comme il y a 31 versets, ça tombe très très bien. J'ai exhorté aussi les jeunes à le faire, Christophe. Et c'est un livre que je trouve excellent. Parce que c'est un livre où c'est un père qui parle à son fils. Souvent c'est mon fils. Mais c'est un livre aussi où on fait acquérir aux jeunes une sagesse de la vie de tous les jours, selon Dieu. Et dans ce livre, combien de fois on démontre que la paix est quelque chose qui ne peut pas venir de l'homme. Elle ne peut venir que de Dieu. Notre paix à nous, c'est Jésus-Christ. Éphésiens chapitre 2, verset 14. Christ est notre paix, le prince de la paix. C'est lui qui nous donne une paix comme le monde ne nous donne pas. Une paix spéciale. Une paix qui nous assoit dans la tranquillité. Une paix qui nous assoit dans l'assurance. Une paix qui remplit nos cœurs profondément. Une paix qui enlève la soif. Christ nous donne la paix. Il dit, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Cette paix, la paix de Jésus-Christ, change le rebelle repentant en une nouvelle créature. Cette paix change le rebelle en une nouvelle créature justifiée par la foi et vivant en paix avec Dieu. Ainsi, nous avons Christ. Ainsi, si nous avons Christ, nous avons la paix de Dieu. Alors la question, c'est pourquoi? Pourquoi alors que nous avons Christ dans nos vies? Pourquoi alors que nous sommes chrétiens, n'avons-nous pas la paix? Pourquoi sommes-nous troublés? Pourquoi vivons-nous parfois dans l'insécurité psychologique, morale, dans les craintes, dans les questionnements, parfois dans les doutes? Pourquoi? Ce matin, j'aimerais vraiment que nous puissions peut-être revenir sur ça, et c'est un encouragement. Je vais vraiment donner un message d'encouragement, surtout à tous ceux qui passent par la souffrance, à tous ceux qui s'inquiètent, à tous ceux qui se posent des questions, qui ont le cœur qui est souffrant, qui est touché, qui est troublé. J'aimerais ce matin vraiment vous encourager à trouver la paix, à retrouver la paix. Pourquoi avons-nous si peur parfois? Vous savez, moi je me représente le chrétien comme un jardin, le jardin d'Éden. Un chrétien c'est comme un jardin, et un jardin il faut l'entretenir. Nos vies chrétiennes, ce sont des vies qui sont comme des jardins qu'il faut entretenir. Mes amis, si vous êtes chrétien et que vous ne faites rien pour nourrir votre vie chrétienne, elle va mourir. Il n'y aura plus rien après, rien. La vie chrétienne, ça se nourrit. Ça se nourrit de la parole de Dieu. Ça se nourrit de l'intimité avec Dieu. Ça se nourrit des engagements pour Dieu. Nos vies sont des jardins. Il faut entretenir la paix. Il faut l'entretenir. Si nous voulons garder la paix, on doit l'entretenir. Pourquoi la paix est importante d'après ce texte? Vous avez vu? Parce que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera nos cœurs et nos pensées en Christ. La paix de Dieu, c'est un gardien. C'est une sentinelle. C'est un protecteur. Il nous protège face aux assauts du monde et nous permet de rester ancré en Jésus-Christ, quels que soient nos problèmes. Quelqu'un qui est en paix, n'est-ce pas? On viendra lui annoncer des mauvaises nouvelles, même le concernant. Son premier réflexe ne sera pas de dire « Ouh, je dois téléphoner, je dois vite aller là-bas !» Mais celui qui est en paix va dire « Ok, c'est un problème, je le reconnais, mais je vais confier ça au Seigneur. J'ai un Dieu capable de m'aider à sortir de cette histoire. » Et il ira confier cela à Dieu. La paix nous protégera de toutes sortes de situations. Alors, comment entretenir la paix de Dieu? Ce matin, nous allons simplement suivre la trame du texte. La première chose que je dois faire pour entretenir la paix de Dieu, c'est que je dois vivre dans la joie. La joie. Verset 4. Réjouissez-vous toujours. Je le répète, réjouissez-vous. La joie, mes amis, la joie est un état intérieur caractérisé par, c'est vrai, la bonne humeur, le sourire, la tranquillité. La joie, c'est ce qui, à l'extérieur, nous pousse parfois à chanter. Ma fille Anne-Déborah chante beaucoup. Elle chante très fort parfois, ça nous fait mal aux oreilles, mais bon. Mais enfin, bon, elle chante. Et quand on lui dit, ça fait mal aux oreilles, elle chante encore plus fort. Alors mieux vaut peut-être quitter la pièce et la laisser chanter. Après tout, c'est bien aussi pour ses branches. La joie, ça fait sourire, ça fait chanter la vie. La joie, ça me pousse à aller vers les autres. La joie, ça me pousse à m'extérioriser. Les jeunes gens, quand ils veulent aller faire la fête, de mon temps, c'était pas comme ça. Mais de nos jours, ça devient terrible. Ils prennent un... Il y a un qui m'a expliqué ça. Ils prennent du Red Bull, hein, qu'ils prennent à moitié, ils prennent du whisky ou je sais pas moi quoi, ils mettent dedans, vous imaginez le cocktail. Hein? Et ils boivent ça. Et de nos jours, ils boivent de plus en plus avant d'aller à la fête. Hein? Comme ça, quand ils arrivent à la fête, ils se souviennent plus de rien du tout. Je connais même une jeune fille de famille chrétienne qui a envoyé des photos sur elle, d'elle, sur Facebook. C'était quand même inquiétant, quoi. Et puis après, quand on lui demandait, mais comment t'étais comme ça, je ne me souviens plus. Je ne me souviens plus du tout. Hein? Elle était toute nue, elle faisait comme ça, elle était déshabillée complètement. Enfin bref, elle, il y avait des photos où elle vomissait. Enfin bon, bref. Bon. Ils recherchent la joie, mais à leur manière. Je ne parle pas de cette joie-là. Je parle de la joie dans le Seigneur. Je parle de la joie dans le Seigneur qui est une force pour nous. Comment développer la joie du Seigneur? Il ne suffit pas d'avoir de la bonne humeur. Hein. Il ne suffit pas de rentrer de comment dire. Je souris à tout le monde, alors je suis dans la joie. C'est pas ça la joie. C'est un état intérieur. Un état intérieur caractérisé par une assurance. Je vais faire court parce que le temps passe. Je vais simplement, dans ce texte, prendre l'exemple de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul était un exemple de la joie. Sa joie ne reposait pas plus que, enfin, ne reposait uniquement, je vais dire, sur sa relation avec Dieu. La joie de Paul reposait sur la communion qu'il avait avec le Seigneur. Parce que Paul était en communion avec Dieu, cela était un sujet de joie pour lui. Il aimait tant ce Dieu. Être avec ce Dieu était tout pour lui. C'était tout ce qu'il demandait. Vous vous souvenez, il dit, le but de ma vie est de communier aux souffrances de Christ. Tout ce qu'il voulait, c'est Dieu. Tout ce qu'il voulait, c'est Jésus. Et avoir Jésus, c'était son sujet de joie. Il n'avait pas besoin d'avoir d'autres expressions de joie. L'apôtre Paul, parce qu'il avait Christ dans sa vie comme son sujet unique de joie, le reste, ça lui importait peu. Les gens étaient en train d'évangéliser, ils prêchaient un évangile, ils apportaient des gens à Christ, ils faisaient ça n'importe comment. Il dit, peu importe, l'essentiel, que l'évangile avance. Il est content. Il n'a pas, il est content. Il dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Je sais vivre dans la souffrance, dans le manque, mais je sais aussi vivre dans l'abondance. Tout ça, c'est rien. Pourquoi? Parce que le plus important, mon bonheur à moi, c'est Christ. Mes amis, c'est une recette que nous pouvons prendre. Comment nous pouvons entretenir notre joie? C'est en ayant une relation profonde avec Christ. En regardant Jésus-Christ, non pas simplement comme ce Dieu que j'aime bien, mais non, comme véritablement celui qui me fait sourire. Quand je le vois, quand je pense à lui, je suis détendu, je suis heureux. Je dis, waouh, celui-là, c'est mon pote, c'est mon Seigneur. Celui-là, c'est mon tout, c'est ma vie. Et effectivement, Christ est notre vie. L'apôtre Paul disait, Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Et c'est vrai. Parce qu'aujourd'hui, si nous mourons, nous allons où? Nous allons dans l'éternité avec lui. Nos vies sont où aujourd'hui, dit le texte colossien? Nos vies sont cachées en Christ. Là-haut! C'est Christ, uniquement lui. Mes amis, basons nos vies sur Jésus. Développons une communion profonde avec lui. Regardons-le non pas comme simplement un Dieu distant de nous, regardons-le comme notre intime, la raison de notre joie. Christ doit devenir notre vie. Ça, c'est la première chose qui peut permettre que nous puissions véritablement entrer dans la joie. La joie est altérée par les circonstances de la vie. Parfois aussi, elle est altérée par les gens autour de nous. Vous savez qu'il y a des gens qui sont des comment on les appelle ça? Les gens qui aiment bien casser l'ambiance, là. Comment on les appelle? C'est les gens, quand ils arrivent quelque part, terminé. Si vous étiez content, vous cessez d'être content. Parce qu'il va lâcher peut-être des mots qui ne vont pas vous plaire. Il va chercher les conflits, il va chercher les problèmes. Il y a des gens comme ça. Hein, dès qu'ils arrivent quelque part, oh, il est là. Oh, yo, 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 yo. Vous voyez? Parfois, les gens peuvent nous enlever notre joie. Parfois, ce sont les circonstances de la vie, un imprévu, quelque chose qu'on n'a pas calculé, ça peut nous enlever notre joie. Les choses de la vie, les choses de la vie, les réalités de la vie, mais ça peut aussi être les soucis. Quand on se tracasse beaucoup pour quelque chose, on peut perdre sa paix. On peut perdre sa joie. Alors ce matin, basons notre joie sur Jésus-Christ. Soyons contents d'avoir Jésus comme notre Seigneur, comme notre vie. Et que quand nous pensons à lui, et que grâce à lui nous commençons à avoir du goût pour la vie, que nous nous arrêtions là. Tous les autres problèmes qui viendront par la suite, oui, ce sont des problèmes, ça peut m'affecter, mais mon bonheur est ailleurs. Je me souviens, quand mon papa était décédé, en 94, je ne vais pas raconter tous les détails, mais je me souviens toujours de cette impression extraordinaire que j'ai vécue dans une... Donc, quand il est décédé, le dimanche, quand je me souviens plus tellement des circonstances. Bon, enfin, je suis arrivé, je pense, immédiatement. Il est décédé 6 heures après, j'étais à Kinshasa. Et donc, on l'a enterré le vendredi. Et donc, le dimanche, j'ai été dans une église pour prier. Et puis, pendant que les gens louaient le Seigneur, moi je dis, Seigneur, vraiment, je te loue, je te bénis, mais comprends-moi, je suis vraiment dans le deuil, quoi. Je suis vraiment dans la peine, Seigneur. Parce que, voilà, j'ai perdu mon père, et pour moi, c'était vraiment important qu'il reste en vie, mais enfin, voilà. Et puis, alors que je priais, j'ai senti vraiment comme une main qui m'entourait, comme une main amicale qui me prenait comme ça, et comme une voix qui me disait tout doucement, ne suis-je pas, ne suis-je pas ton père aussi? Punaise. J'ai senti tout le poids de cette peine tomber. Et je pouvais sortir de cette église en disant, je reste, bien sûr, triste pour le décès de mon père, mais je peux continuer à vivre. Christ est réel dans nos vies, mes amis. Mais c'est nous qui, parfois, empêchons cette réalité de se manifester dans nos vies. Faisons de Jésus notre joie. Partageons nos bonheurs avec. Deuxième chose qui peut nous permettre d'entretenir la paix, c'est le verset suivant, le verset 5, la douceur. Que votre douceur soit connue de tous. Je ne vais pas revenir sur la douceur parce qu'on a beaucoup parlé de la douceur. Mais vous savez que la douceur, ça fait aussi partie du caractère de Jésus. Jésus était doux et humble de cœur. Vous souvenez? Et vous savez, on a aussi dit longtemps aussi que c'était pas facile d'être doux. Parce que dans un monde comme celui-ci, où il y a tant de violence, être doux, c'est même devenir comment on appelle ça, un type bête, quoi, un béné, quoi. Hein? Christophe, vous les jeunes, être doux, c'est pas toujours évident, hein. Tout le monde va te marcher sur les pieds, hein. Il faut s'imposer. Il faut imposer le respect. Parfois, il faut lever le poing pour dire, hein, bon, ça suffit maintenant. Mais Jésus avait choisi la douceur. Il a montré la douceur, c'est-à-dire le contraire de la violence. Chaque fois que les solutions en appelaient à une alternative entre la paix, entre la douceur et la violence, Jésus a toujours choisi la douceur. Bien sûr, s'il n'a pas d'autre choix que d'agir violemment, c'est ce qu'il a fait de temps en temps, oui, il va le faire. Mais chaque fois qu'il y a l'alternative entre la douceur et la violence, il choisira toujours la douceur. Jésus est doux et humble de cœur. Nous pouvons aussi vivre, nous pouvons aussi nous exercer à la douceur. Et la Bible, ce texte nous dit que votre douceur soit connue de tous. Apprenons à véritablement manifester notre douceur, que les gens voient que nous sommes des gens profondément non violents. Les gens qui cherchent la paix, qui cherchent à résoudre les problèmes plutôt qu'en surajouter. Les gens qui cèdent là où ils ont peut-être des droits, mais qui cèdent, qui disent « Ok, ça va, je laisse tomber, vas-y, sois content avec ce que tu as. » Des gens qui se battent, mais qui se battent dans un sens où ils recherchent d'abord et avant tout la paix à travers la douceur. Je ne vais pas trop commenter parce que je vois qu'il y a le temps. Je vais juste passer au dernier point. Donc, première chose, d'abord, la joie. Ensuite, la douceur. Enfin, refuser l'inquiétude. L'inquiétude, c'est quelque chose qui nous dérange tous. On s'inquiète pour beaucoup de choses. On s'inquiète pour nos enfants. On s'inquiète pour nos vies. On s'inquiète pour notre santé, on s'inquiète pour l'avenir, on s'inquiète pour l'argent, on s'inquiète pour nos maisons, nos voitures, on s'inquiète pour beaucoup de choses. S'inquiéter, c'est le lot de l'humanité. Paul était un homme qui avait des raisons de s'inquiéter. Je reste seulement dans le contexte de l'épître aux Philippiens. Paul était en train d'écrire cette lettre parce qu'entre autres, il y avait des désaccords entre les chrétiens, il y avait des disputes entre les chrétiens. Vous voyez, chapitre 4, il y a une certaine Évodie et une certaine Saint-Tiche qui sont en pétard l'une contre l'autre. Et Paul les exhorte à s'entendre. C'est un souci pour lui. C'est un souci. Il est là à gérer des disputes. Mais il y a aussi les soucis des autres églises entre-temps. À Rome, il y a des divisions. À Corinthe, il y a des divisions. Tous ces soucis, Paul les porte, ça doit être un sujet d'inquiétude pour lui. Mais plus encore, au moment où il écrit la lettre aux Philippiens, il est où? Il est à Rome, en prison. Ce n'est pas comme les prisons d'aujourd'hui. Hein. Ils n'ont pas d'ordinateur là-bas, hein, et de télévision, et de l'eau chaude, et des toilettes saines, et des matelas. Hein. Ce n'était pas cette prison-là. Hein. Il est en prison. Peut-être même qui a des problèmes de santé. Puisqu'on voit dans 1 Corinthiens, je ne sais plus quel chapitre là, où il fait allusion au fait qu'il a, il a parfois des soucis de santé. Mais malgré tout ça, Paul va quand même donner une recommandation en disant, attention, ne vous inquiétez de rien. Quelle est la recette pour combattre les inquiétudes? Toujours ce texte-là. Il dit la prière. La prière. Voyez-vous? La prière, la requête, faire connaître ses besoins à Dieu. Mes amis, souvent, nous restons avec nos inquiétudes parce que nous ne les confions pas à Dieu. Nous sommes comme on m'a raconté l'anecdote d'un monsieur qui portait un fardeau, qui pesait. Et qui était sur le bord de la route. Il y a un camionneur qui a pitié de lui. Oh, pauvre homme, avec ce fardeau, vraiment, il faut vraiment l'aider. Le camionneur s'est arrêté, mais montez, monsieur. Le gars est monté, mais il a continué à garder son fardeau dans le camion. Nous sommes un peu comme ça, nous aussi. Nous disons, Seigneur, aide-moi à sortir de mon problème. Mais je porte encore quand même mon problème avec Dieu. Le Seigneur dit, mais lâche-le. Non, il est à moi, c'est mon problème. Je dois le résoudre, moi, pas toi Seigneur, moi. Ça me gêne même de demander de faire quelque chose. Apprenons à confier à Dieu nos problèmes en lui abandonnant cela. Mais quand je dis abandonner, c'est ne plus se tracasser. Ne plus dire, oh mais enfin, quand même, en fin de compte, tout compte fait quand même. Comme un petit détail qui m'inquiète. Non, je l'abandonne entre les mains de Dieu, je le dépose entre les mains de Dieu et c'est fini. Alors, il donne le processus. Hein. Action de grâce, d'abord prière, requête, ensuite supplication, quand ça chauffe, quand mon cœur bouillonne. Plus mon cœur bouillonne, plus je vais à Dieu. Je t'en... Je t'en supplie, Seigneur, aide, aide. Et puis, à un moment donné, je dois marquer une fin. Je dois pouvoir dire, stop, maintenant, j'ai suffisamment laissé ça entre les mains de Dieu. Maintenant, c'est entre les mains de Dieu, je fais confiance. Alors, je passe à l'action de grâce. Merci, Seigneur, pour le problème que je t'ai posé et que je sais que tu m'apporteras une solution. Merci, Seigneur. Et voyez, quand on fait ça, on est dans la paix. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs en Jésus-Christ. Alors, je vais m'arrêter là. Simplement, vous encourager ce matin à développer la paix. La paix avec Dieu. La paix qui va protéger nos cœurs des émotions, des maladies. Vous savez, l'inquiétude, le manque de paix, ça affecte nos cœurs. Hein. On attrape des maladies, on a la tension, on a le cœur, on devient cardiaque, on devient ceci, on devient cela, sur le plan physique, sur le plan psychologique, on commence à perdre la boule, on est vraiment submergé des pensées, etc. L'univers devient sombre, noir. L'univers devient malheureux pour nous. Alors nous devenons un chrétien malheureux, un chrétien sans joie, un chrétien sans témoignage, sans puissance. Ce matin, que le Seigneur nous aide à porter nos fardeaux auprès de lui. Développons la joie. Développons la douceur. Dans les solutions de nos problèmes, recherchons la douceur. Refusons l'inquiétude. Je vous laisse avec un texte, mais on ne va pas le lire. Hein, mais relisez chez vous à la maison cette exhortation de Jésus. Matthieu chapitre 6, versets 25 à 37, où il dit « Ne vous inquiétez de rien ». Regardez comment le maître lui-même parle. Et je suis sûr que Paul s'était inspiré de lui. Regardez comment il parle, comment il recommande de ne pas s'inquiéter. Mettez-le en parallèle avec ce que Paul dit, vous allez voir. Qu'il recherche la même chose. Je vais m'arrêter là. Que le Seigneur nous aide à réfléchir sur ces choses. Prions. Père Céleste, notre Dieu, nous voulons vraiment te confier ce temps et nous voulons te laisser cette réflexion, Seigneur, sur la paix. Et nous voulons que la paix de Dieu demeure dans nos cœurs, puisque cette paix, nous l'avons en Jésus-Christ. Lui qui est notre paix, qui a fait la jonction nécessaire afin que nous soyons sauvés. Seigneur, donne-nous que cette paix soit entretenue dans nos vies, face aux inquiétudes, face aux problèmes, face aux inquiétudes, face à la violence, face aux circonstances de la vie, aux choses de la vie, aux gens parfois aussi, et parfois aussi aux soucis, Seigneur. Aide-nous à développer véritablement la joie, la douceur, et aide-nous à combattre véritablement l'inquiétude, afin que nous soyons en paix avec toi. Que nous soyons en paix en toi et que cette paix nous fortifie, scotche nos yeux sur toi et nous aide à travailler pour toi, à être efficace aussi pour ta gloire. Nous te confions cette prière dans le nom de Jésus. Amen.